merci d'avoir répondu, à l'invitation de l'école freudienne. Je vous remercie d'avoir répondu à l'invitation de l'école freudienne. Nous allons donc vous présenter ce livre de Robert Samacher qui est à ma gauche. Je vous présente une autre personne qui j'ai demandé de venir pour participer à nos échanges, Max Cohn, qui est psychanalyste, membre d'Espace Analytique et maître de conférence à l'Université Paris-7 Diderot. Et pour certains d'entre vous, vous vous souvenez peut-être qu'il a été aussi enseignant à l'Université de Nantes. Et puis, à mon extrême gauche, Olivier Douville, qui est psychanalyste et anthropologue et maître de conférence à l'Université Paris 7. Il est aussi directeur de publication de la revue Psychologie Clinique. Dans un premier temps, je vais faire une introduction. Je laisserai ensuite la parole à Robert Samacher. Vous pourrez intervenir si vous avez des choses à dire déjà sur ce premier échange. Puis, nous donnerons la parole à Olivier Douville, et là encore, vous pourrez intervenir. Enfin, à Max Cohn. Puis, la parole sera donnée à la salle. Mais surtout, n'hésitez pas à intervenir au fil de nos échanges. À votre guise. Le livre de Robert Samacher ne s'ouvre pas comme un autre livre de psychanalyse. Sans être une autobiographie, les éléments biographiques qu'il contient, dans leur nuage à la théorie, produisent un effet de vérité que l'on trouve très rarement. Il y a là une autre version du rapport de la clinique à la théorie qui échappe absolument à ces fabriques de cas qui parsèment bien souvent les ouvrages de psychanalyse. Ce n'est pas un récit, mais de nous apprendre qu'il est né en 1940 à Paris, quelques mois avant l'entrée de l'armée d'occupation allemande dans la capitale, de père et de mère juifs émigrés polonais, suffit à ouvrir la question de la pulsion de mort et, pour reprendre son titre, de la création et destruction au cœur de l'humain. De dire de son père, je le cite, il figure parmi les 32 rescapés sur les 1000 personnes juives de différentes nationalités ayant composé le convoi numéro 2, suffit à décrire ce que fut la Tuquée qui avait la haute main sur ses jeunes années. Il lui restait à faire rendre gorge au destin, et ce fut la cure analytique. Mais revenons à ce rapport de la clinique et la théorie. Lacan, en 1932, rencontre du cas aimé, et c'est en psychiatre qu'il écrit. Un simple coup d'œil sur la table des matières de sa thèse suffit à s'en rendre compte. Il ne se sert pas seulement de ce qu'il recueille. Il ne se sert pas seulement de ce qu'il recueille de la bouche aimée. Il utilise son dossier d'état civil, son dossier asilaire et policier, ses textes littéraires, l'examen physique et l'étude de ses antécédents. Mais ce sera la dernière fois qu'il écrira explicitement un cas. Après, il s'attachera à préserver l'anonymat de ses analyses. Plus tard, dans Subversion du sujet, égalétique du désir dans l'inconscient freudien, il affirmera que pour l'analyste dans l'analyse, il s'agit d'affermir sa naissance qui seule peut garantir une ignorance toujours neuve afin qu'aucun analysant ne soit un cas. Lacan emploie ici un mot dont l'usage est rare. La naissance est, d'après le Robert, une ignorance de ce qu'on n'a pas la possibilité de connaître. Seul l'analysant peut donc la lever. Ainsi, nul autre que le sujet ne pourrait décrire son cas. C'est peut-être pourquoi le lien entre la clinique et la théorie résonne autrement dans le livre de Robert Samacher. Il se révèle tellement fécond. Ce n'est plus un discours universitaire, promis, selon le mot de Lacan, à une poubellification. Il est lumineux, car au-delà, c'est la cure qui en est l'opérateur. Cela vérifie que pour chaque un, il s'agit de réinventer la psychanalyse. Un fil rouge forme la trame du livre de Robert Samacher. C'est l'insistance mise sur le passage de la jouissance à la jouissance écrit en deux mots et à une éthique du désir. C'est-à-dire d'une jouissance pure à une jouissance barrée, la jouissance du signifiant. Après avoir méticuleusement repris la dynamique pulsionnelle freudienne, il énonce avec Lacan que, pour le sujet de la parole, il y a renoncement à la jouissance qui doit condescendre au désir. Après avoir considéré les avatars de ce fonctionnement sur le plan de l'individu, il conduit une réflexion au niveau de la maçonne psychologie, de la science politique et des droits de l'homme. Parce que la haine est première, parce qu'il y a un lien entre la haine et la jouissance non barrée, la destruction qui est au cœur de l'humain peut prendre les devants. Et un peuple peut se soumettre à une loi non marquée par l'interdit de l'inceste et du meurtre, et obéir, par l'emprise d'un fourreur, à un surmoi féroce qui substitue au « tu ne tueras point » de la loi mosaïque, l'impératif du meurtre, l'impératif sadien. Tu tueras, jouis. Alors que dans le décalogue qui contient les lois de la parole, le ne pas garantit la distance à la chose. La haine de l'être, qui se distingue de l'invidia, qui est la haine jalouse, conduit à briser le rapport au signifiant. C'est ce que Robert Samacher démontre dans son évocation de son rapport au yiddish, qui a fonctionné pour lui comme une la langue, reprend le concept de Lacan, que les nazis se sont employés à faire disparaître. L'anéantissement dans la Shoah de ces millions de corps sans sépulture est une atteinte à la lettre qui marque chaque partie d'un corps humain. La mère n'a-t-elle pas donné chaque partie du corps de l'enfance au début de sa vie. Cela, c'est le pire. Mais il peut y avoir aussi le meilleur, et c'est la rencontre de Nelson Mandela et de Frédéric de Klerk, en République sud-africaine, qui le montre. Là, Robert Samacher reprend ce que Solange Feladé nous a apporté, car sur ce point, son enseignement peut servir de paradigme. Si les conflits perdurent, c'est qu'aucune des parties en guerre ne veut renoncer à une partie de sa jouissance. Quant au racisme, c'est l'illusion du même. C'est vouloir que l'autre ait le même mode de jouissance que soi. C'est ne pas vouloir reconnaître la différence. Il y aurait encore beaucoup à dire sur le livre de Robert Samacher, mais on va s'y employer tout cet après-midi. Évoquons sa réflexion sur la responsabilité du sujet psychotique et du psychanalyste. Celle sur le tripode parole, institution et corps, qui permet d'approfondir la question du soin dans une institution psychiatrique. Il enrichit cette réflexion par une étude du transfert psychotique, dont il affirme qu'il n'est pas impossible. Enfin, dans une réflexion passionnante sur l'esthétique, il fait une distinction entre création et sublimation. Cela permet de considérer, sous un jour nouveau, pourquoi la création artistique peut être, pour un sujet psychotique, une suppléance et même un symptôme. Une recension complète de ce livre n'est pas possible, tant il est riche. Mais Robert Samacher n'insiste-t-il pas sur le fait que c'est autour du manque que se constitue le sujet de la parole? Il réaffirme ainsi avec force l'insistance que Solange Faladet a portée sur la chose, reprenant ainsi l'enseignement lacanien. Dasding étant la pierre d'œuvre qui fonde tout le processus de subjectivation. Cela est toujours à réaffirmer. Je vous donne la parole. Bon.
Je remercie Jean-Yves Méchineau pour cette belle introduction et puis pour le fait qu'il a organisé ces journées dans le cadre de l'école francophone, je vous rappelle, école francophone fondée en 1983 par Solange Faladet. Et je dirais que ce livre découle aussi de l'enseignement de Solange Faladet et aussi, à la suite de Solange Faladet, Bernard Marie, à qui je rends hommage dans ce livre. Donc il est important pour moi d'insister sur le fait que sans leur apport, je n'aurais jamais pu écrire ce livre. Alors je dirais que ce livre a été pour moi une nécessité. C'est-à-dire que j'arrive à un âge où il me semble que j'ai des choses à rassembler. Je dois dire que j'ai fait une carrière universitaire et ça n'est pas dans ce cadre-là que j'ai éprouvé la nécessité de produire quelque chose qui viendrait de moi-même. Je pouvais répondre à cet autre universitaire qui, dans la contrainte qu'il imposait, ne me disait rien. L'université est un lieu où on pense, où on réfléchit, mais aussi c'est un lieu où on peut aussi complètement se perdre et ne plus être soi-même. Alors c'est après une carrière universitaire, après une carrière hospitalière, que j'ai éprouvé le besoin de rassembler un certain nombre de choses, et je dois dire que ces choses rassemblées sont aussi liées à différentes rencontres, que ce soit celle d'Olivier Deville, que ce soit celle de Max Born, qui, à une époque donnée, dans les années 2000, m'a introduit dans son groupe sur le yiddish. Et Born insistait beaucoup sur le fait que je théorisais beaucoup et que je n'arrivais pas à parler de moi-même. Donc dans ce que j'ai pu écrire de moi, il n'est pas pour rien, d'autant que avec lui, j'ai participé à des colloques où il y a des questions de la Yiddishkeit, et dans ce cadre-là, ben, j'ai pu apporter le Yiddish Mamelouchen des Juifs Ashkenaz, le corps des déportés, le Yiddish. Ça m'a amené à parler de moi. Je me suis rendu compte qu'on pouvait soi-même se prendre aussi comme objet clinique. Alors il y a peut-être aussi un moment où on a besoin de passer dans l'analyse d'un temps où on parle à un temps où aussi on écrit. Et ce temps où on écrit, je l'ai connu aussi du vivant de Faladet, puisque certains des textes que vous trouverez dans ce livre, je les ai soumis à Solange Faladet et j'ai pu aussi en parler avec elle. Voilà, cette rencontre a été aussi une rencontre tout à fait importante pour moi. Alors je dois dire que dans ce livre, on rend compte de trois parcours qui s'entrecroisent, bien entendu. Un parcours de vie, puisque je pars de mon enfance, de ce que j'ai pu connaître pendant la guerre, du fait que j'ai été, comme on dit maintenant, enfant gâché. Et j'ai mis du temps à me rendre compte que j'avais été enfant gâché. Et tout à l'heure, dans le train, en parlant avec Max, ce qui m'apparaissait, ce n'est pas tant ces années d'enfance où j'étais caché, où il ne fallait surtout pas que je parle, que je fasse connaître le fait que je suis juif, mais c'est surtout le retour de mon père de déportation, avec toutes les traces qu'il ramenait d'Auschwitz et des camps de la mort. Je dirais que c'est là où c'est là où pour moi serait le traumatisme. C'est là ce qui m'a particulièrement marqué, et c'est autour de cela que j'ai construit des représentations. S'il y a à parler d'une souffrance liée à cette époque, je dirais que c'est bien le retour de mon père et de ce que j'ai pu rencontrer à ce contact-là, cet homme qui est parti alors que je devais avoir 1 ou 2 ans, je n'en avais aucun souvenir, et lorsque je l'ai rencontré, c'était un cadavre ambulant, je dirais des choses comme ça, quelqu'un qui était dans un état physique tellement lamentable, qui m'a fait peur et qui ne correspondait pas à l'idéal de père que je m'étais construit. Alors je dois dire que ce temps de guerre a été aussi important pour moi, parce que c'est là où j'ai rencontré la haine, la violence, l'injustice, tout ce que les hommes sont capables de faire de pire. Mais j'ai aussi rencontré aussi le meilleur, à partir de gens qui, au risque de leur vie, alors que ma mère et nous étions 5 enfants, étions à Paris, hein, au vu et au su de tous, et ces personnes nous ont cachés jusqu'à un inspecteur de police qui est intervenu pour nous dire « partez, faites attention ». Qui nous donnait des indications et nous disait telle chose, il y aura une rafle, partez. Donc, c'est de ce côté-là qu'on peut rencontrer aussi le meilleur. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un homme peut dénoncer? Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un homme qui fait qu'il peut dénoncer? Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un homme qui fait que il pourra produire le meilleur? C'est-à-dire juger qu'un homme vaut un autre homme et que du fait que c'est un humain, un être de parole, il a le droit de vivre. Cette question traverse mon livre aussi et pose bien entendu la question de l'éthique du jugement. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un homme dans une situation particulière, vous ne m'entendez pas?
Ça dépend des bons le micro par
le micro.
On prend le micro comme ça.
Ça c'est bon. Qu'est-ce qu'il fait là?
C'est mieux? C'est mieux derrière aussi?
Oui. En fonction des rencontres et compte tenu d'une situation donnée, un homme pourra juger et qui peut dénoncer. Et un autre dira, non, il n'en est pas question, un homme est un homme, un être de parole, et de ce fait, je ferai tout, au risque de ma vie, pour le sauver. Et nous avons connu X situations de ce type, durant la guerre. D'ailleurs, le film La Rafle, que je n'ai toujours pas vu, rencontre d'un jeune garçon qui était incarcéré au Vélib, qui a réussi à quitter le Vélib et à être accueilli par des gens qui lui ont sauvé la vie. Constamment des choses de cet ordre-là. Pour moi, c'est une question cruciale, c'est une question fondamentale. Donc c'est autour de cela que je tourne à Kant, que j'ai parlé de Kant avec Eichmann. En tout cas, qu'est-ce que l'acte? On se rend bien compte que l'acte aussi passe par la parole. Et que la parole peut être avoir des conséquences. Ou une parole peut être aussi salvatrice. C'est savoir aussi avec la psychanalyse, ce que je suis en train de dire là. Complètement. Donc c'est autour de ce fil, là, vous voyez, la violence, la haine. Qu'est-ce qui fait que... La pulsion de mort, alors comment j'ai amené la pulsion de mort? Pourquoi ce livre s'appelle « Sur la pulsion de mort » Disons que la pulsion de mort occupe une place au milieu du livre. Apparemment, il n'est pas constamment question de la pulsion de mort. Mais à partir du moment où on amène la question de la chose, de Dasding, et de cet évitement de la chose, de la jouissance liée à la chose, on ne peut que se référer au noyau amour-haine au cœur de la chose et qui concerne chaque humain. Ça me paraît tout à fait fondamental. Et comment parler de la pulsion de mort si on ne tient pas compte de ce noyau amour-haine au cœur de l'humain? C'est de là dont on part. Et c'était une clinique sur laquelle insistait beaucoup Solange Faladé. C'était pour elle, c'était la clinique de la chose centrale. Et je ne vois pas comment on peut travailler en particulier la question de la psychose, entre autres, si on ne se réfère pas à cette clinique de la chose articulée au manque. Si on ne reprend pas ces choses-là, on ne peut pas aborder la question de la division du sujet, on ne peut pas aborder la question de l'objectita, ce reste de jouissance qui se maintient au cœur de la chose et autour duquel la pulsion fait le tour. Alors, à propos de la pulsion de mort, je réarticule cette notion autour de, non pas la dualité pulsion de vie et pulsion de mort, mais ce que j'en repère, et Faladé aussi insistait sur le fait qu'il y a la pulsion, et qu'il y a continuité entre pulsion de vie, pulsion de mort. Hein, et si on se réfère au trajet de la pulsion fait le tour de l'objet, de son objet, l'objectita, et elle tourne autour d'un vide. Et c'est ce qui lui permet de continuer, et de répéter, et de faire en sorte qu'elle n'atteigne jamais son objet, de façon à pouvoir repartir. C'est ça la dynamique pulsionnelle. Et en même temps, on se rend bien compte que l'un ne va pas sans l'autre. S'il y a dualité pulsionnelle, comme l'amour et la haine sont indivisibles, collent ensemble, on ne peut pas séparer la pulsion de vie, la pulsion de mort. Il y a une question d'intensité à certains moments, c'est la pulsion de mort qui prédomine. C'est la récréation. Et à d'autres aussi. Bon, alors à partir de cette question de l'évidement de la chose, de cette jouissance première dans laquelle, par exemple, le sujet autiste baigne, de cette jouissance qui colle au sujet psychotique, le névrosé, lui, réussit à se remparder de cette chose, à prendre une distance, et en même temps... Ce qu'il va rencontrer, c'est le manque, et c'est ce manque qui va lui permettre d'avancer, de fonctionner, et c'est ce manque qui va permettre que s'articule le désir. Hein, le désir est entièrement lié au manque. Il ne peut pas y avoir de désir sans la rencontre du manque. Et on se rend bien compte que le névrosé a besoin de manquer pour pouvoir continuer et désirer. Sans manque, la vie serait complètement insupportable. Et c'est cette question du manque qui traverse aussi le sujet psychotique, qui lui, ne rencontrant pas ce manque, est pris dans une jouissance qui peut être tout à fait insupportable, infernale, et en tout cas qui nous persécute. En réarticulant à la question de la chose, de l'évitement de la chose et du manque, à partir de ce que j'ai repris du séminaire 7 de Lacan, l'éthique de la psychanalyse, où il reprend les notions du pape Pie VI autour de cette rencontre de la théorie. J'ai un trou de mémoire là, qui peut m'aider. voyez, je suis là avec ma division, avec mes... Et du manque. À partir de la théorie... qui rend compte d'une sorte de rien de nihilisme au départ. C'est une... Or...
Oui. Je vais dire ce que je dis là-bas en propos de la constitution de... Au départ, la constitution de...
Comme l'étranger... Est-ce que ce que reprend aussi Sade, autour de la destructivité initiale, au départ, il n'y a rien. Hein. Et... cette théorie s'appelle comment déjà? Et c'est ce rien qui est un rien salvateur, ce vide, ce...
C'est le créationnisme?
Le créationnisme. Merci, le créationnisme. Oui, bon, bah, écoutez... Bon, de toute façon, ma division est là, hein. Vous ne pourrez pas l'empêcher. Heureusement, d'ailleurs, heureusement... Oui, c'est à partir de ce vide, de cette destructivité, qu'on peut aussi retrouver les œuvres de création chez l'humain. Il faut partir d'un rien initial, de ce vide initial, pour pouvoir aussi créer, construire. Et j'évoque deux modes de fonctionnement de la création. Je reprends la notion de sublimation, et là, je reprends cette notion à partir du refoulement originaire, parce que sans refoulement originaire, il n'y a pas de sublimation. La sublimation part toujours d'un manque. Et on se rend compte aussi qu'on peut créer sans qu'il y ait sublimation. Faladé, à plusieurs reprises, nous avait apporté l'exemple d'un pâtissier qui, à partir de l'ingestion d'un yaourt et du velouté particulier qu'il rencontrait dans sa gorge, alors qu'il était toujours très, très lié à sa mère, très, très accroché à sa mère, a pu néanmoins faire œuvre de création dans ses pâtisseries par la suite, et sans que ça passe par le signifiant. Voyez. Alors que lorsqu'on parle de sublimation, ben, le signifiant et l'évidement du signifiant est là, hein, en tant qu'évidement de la jouissance, ce qui permet aussi à la pulsion de repartir. Autre mode de création, celui de la psychose. Et là, je suis parti sur Van Gogh en particulier, mais je pense qu'avec Olivier, peut-être on repartira sur cette question de création dans la psychose, la question des suppléances, et également, pour prolonger la discussion, la question du symptôme, qui est une question tout à fait compliquée. Ce que j'amène là, c'est absolument pas simple, ça ne va pas de soi. Je dois dire que ce mode de théorisation ne convient pas à tout le monde, et on me l'a fait savoir, mais tant pis, c'est le mode de théorisation que j'ai appris, qui me convient, et qui me permet, moi, d'avancer dans ma clinique. Pour moi, c'est ce qui compte. C'est avec ça, ce sont mes outils. Ce sont mes outils que j'expose dans ce livre. Alors, pour avoir une notion de ce parcours, je parle aussi de mon parcours professionnel, de ce que j'ai pu faire en psychiatrie, de la question, vous voyez, violence, haine, violence, dangerosité, la psychiatrie, comment on rencontre la dangerosité en psychiatrie, comment parler aussi de la dangerosité en psychiatrie. Alors, je repasse par les soeurs Papin. Je dois dire que dans notre école, ça a été aussi travaillé par Bernard Marie, qui nous a proposé un très beau texte sur les soeurs Papin. Je l'ai pris sous un autre angle. Bon, le crime du caporal Lorty, le gendre, vous est connu, je présume. Donc il y a quand même un certain nombre d'auteurs qui ont pu amener à leur façon cette question de dangerosité en psychiatrie, en particulier dans la psychose, hein, dont le sujet n'a plus de limite et a un rapport à la loi qui ne tient pas. Alors il y a ça, et puis j'ai aussi parlé de certains artistes dont pour la psychose après Van Gogh, David Nebreda, et avec les suppléances qu'il a tenté de mettre en place pour tenter de prendre appui sur un double photographique, ou encore j'ai évoqué le Philippe Stellarc, performeur très connu, et je montre comment lui, à partir d'une structure que je suppose perverse, construit, va construire son fantasme, et comment lui se met au cœur de son fantasme, pour terminer par une question de politique. Et alors là, j'ai encore fait appel à Solange Faladé et à ce qu'elle nous avait dit de cette rencontre entre De Klerk et Mandela, de ce qui paraît tellement important et évident, enfin, ce qu'elle nous disait, chacun venant d'univers complètement différent, opposé, ayant des conceptions du monde aussi complètement différentes, ont fait ce pas qui leur a permis à l'un et à l'autre de mettre, alors Faladé disait, de mettre la haine de côté, de mettre la haine de côté, et je dirais aussi l'amour, l'amour, la haine, de façon à pouvoir, il ne s'agit pas de remplacer cette haine par un amour hypothétique de Dieu, c'est pas de ça dont il s'agit. Et laisser, en référence à la clinique de la chose, un espace vide ouvrant à un dialogue. Et ces deux hommes, de façon tout à fait exemplaire, y ont tout à fait réussi. Depuis, je n'ai pas du tout rencontré dans le monde des hommes capables de faire ce pas extraordinaire. Et je dirais que ce que nous a apporté à ce propos Solange Faladé est particulièrement éclairant. Voilà, alors je vous ai fait part de mon cheminement, de ce qui m'a amené à écrire ce livre. Alors je suis passé aussi par la question des traces et des restes à propos de ce qu'ont pu produire les nazis. Quand je parle de traces, je parle effacement du signifiant et les restes. Et les restes, c'était tout ce qui pouvait matériellement se repérer, c'est-à-dire les douilles de balles. Et je dois dire que dans la Shoah par balle, ce qu'ont cherché après coup à faire les nazis, c'est à aussi effacer ces restes. D'ailleurs, c'est pour ça que Himmler avait voulu faire venir des Français en Lituanie pour brûler les restes des corps qui se trouvaient dans les fosses communes, de façon à effacer toute trace. C'est quelque chose d'énorme. Alors, je vous ai dit quelques mots de la dynamique pulsionnelle. La psychiatrie, la psychose, la rencontre de la psychose, ma propre expérience en psychiatrie m'a permis de parler du passage à l'acte et de la dangerosité. J'évoque aussi dans ce livre les enjeux structurels. Certains de nos collègues ont tendance à dire qu'on n'a pas besoin de références, de repères structurels. On peut se contenter de modèles. Les modèles sont malléables. On peut naviguer bien plus facilement qu'avec vos repères structurels qui sont des cadres rigides et qui, soi-disant, empêcheraient de penser, alors qu'ils nous permettent de nous repérer. Et je dirais que, compte tenu des gens que nous voyons, les repères sont essentiels. Comme je l'ai dit aussi, j'ai traité des questions d'éthique, mais tout cela articulé à la question au vide de la chose, les questions d'esthétique et ensuite les questions d'éthique. Voilà en gros le parcours que j'ai fait à travers ce livre, plus ce que j'ai rencontré dans la grâce à la psychanalyse. Je dirais que j'ai rencontré de différentes façons la psychanalyse et je raconte comment je l'ai rencontré, que ce soit par le biais de Françoise Dolto, que ce soit, j'ai aussi rencontré Claude Dumézil, et puis je me suis fixé sur Faladé. Et c'est avec elle que j'ai continué, que j'ai continué mon chemin et que nous continuons notre chemin dans son école. Voilà ce que je voulais dire.
À propos de Mandela et de De Klerk, je voulais ajouter une petite chose, c'est que si Mandela avait demandé à être aimé, il n'y aurait pas eu de rencontre possible.
Absolument. Là, l'amour doit être aussi mis de côté. Et c'est aussi de ça dont il s'agit dans l'analyse.
Est-ce que sur ce premier échange, vous avez quelque chose à dire? Ou est-ce qu'on poursuit tout de suite avec Olivier Louville? veux le micro peut-être?
Oui, ce serait chouette.
Je me demandais,
à vous entendre, je me demandais si nous pouvions convoquer des notions aussi chères à la psychanalyse, et notamment la psychanalyse lacanienne, telles que la chose, le manque et le désir. Si on pouvait appeler ces notions pour éclairer ce moment qui me venait à l'esprit et dont nous avons connaissance, autant que c'est possible, par les historiens, ce moment où, au bord du lac de Wannsee, en 1942, des hommes civilisés, respectables, ont pu prendre la décision d'extermination des Juifs. Ce que l'on en croit, c'est que ça a été sans amour et sans haine, mais d'une manière réfléchie, technique, méticuleuse, sans passion. Ce qui, bien sûr, nous interroge. Est-ce que ces notions de manque de désir pourraient nous éclairer sur comment ces hommes-là, des hommes comme beaucoup d'autres, ont décidé tout simplement, si j'ose cette expression, une telle décision?
Ce qu'on voit bien dans ce film, ou téléfilm, c'est que les Juifs en tant que tels sont complètement déshumanisés. Ils ne font pas plus partie du monde des hommes, d'êtres de langage. Hein, ils sont, pour les nazis, c'était des poux, c'était des cafards. D'ailleurs, on retrouve ce même discours entre les Hutus et les Tutsis. Il y a quelque chose d'une constante. Il faut déshumaniser l'homme pour pouvoir l'atteindre dans son existence.
Déshumaniser même pour ne pas le haïr.
Oui, ça, il ne fait pas partie d'autre monde.
Oui, c'est ça.
C'est pas pour ne pas le haïr, c'est pour déjoindre la haine de l'identification.
Absolument.
De la contre-identification.
Oui.
Pas tout à fait. De ne pas le haïr.
C'est disjoindre, en effet. Vas-y.
C'est disjoindre la haine de l'imaginaire.
Exactement.
Ne pas le haïr. C'est effectivement incompréhensible si l'on pense que la haine est une jouissance imaginaire qui nécessite au fond un accrochage passionnel au partenaire imaginaire.
Je pensais à ce que dit Lacan des passions de l'être, justement la haine, l'amour, mais aussi
la différence
et ça peut être aussi dans ce registre-là que se sont réfugiés toutes ces personnes qui par ailleurs tenaient des discours parfois apparemment pas si neutres que ça. En fait, je crois que c'était profondément dans le registre de l'ignorance comme passion de l'être.
Oui. Aussi, oui. Mais ce que je dirais, c'est qu'on voit que certains sont aussi particulièrement haineux et n'ont de cesse de dénigrer les Juifs, ce qui leur permet aussi de narcissiquement se valoriser eux. Ce qui était aussi en jeu, c'était l'élection du peuple allemand par rapport au peuple juif. Donc pour que l'un puisse trouver l'élection, il fallait détruire l'autre, ou le rabaisser à moins que rien. Mais je dois dire qu'il y a aussi un fonctionnaire nazi qui semble quand même retrouver et qui, devant le discours de contrainte qui s'impose, ne peut plus rien dire. Hein, et est obligé, il y en a même un qui va dégueuler en fin de compte. Tellement ce qu'ils vont décider peut lui être insupportable. Donc je ne suis pas si sûr que ça, que la haine ait été entièrement évacuée.
Vous prenez la parole maintenant
Oui, bien sûr. Ce qui est mieux
Vas-y.
Il semble que celui-ci soit mieux.
C'est mieux. Je vais pas avoir de...
Bien sûr, d'abord, je remercie les
les amis qui m'ont invité, c'est un honneur. Et je remercie aussi Robert de l'honneur qu'il m'a fait de me demander une préface à son livre. Je veux dire des petites choses d'abord comme ça sur le livre de façon absolument descriptive. On peut considérer que c'est un énorme livre par son volume. Et je crois que c'est important. Il a exactement la quantité et la densité qu'il faut. Voilà. Parce qu'il est extrêmement construit, que les questions se répondent les unes aux autres, et que dans cette polyphonie solidaire et cohérente, ce livre nous interdit la facilité imaginaire de penser qu'il y a une partie des psychanalystes qui serait réservée à la psychopathologie, une partie des psychanalystes qui serait réservée à l'analyse de la culture et une autre aux effets de l'histoire. Que tout cela, ça se tient. Et que la figure centrale de ce livre soit autour d'un pulsion de mort, le fait rentrer, même s'il est tout à fait actuel et même contemporain, dans l'architecture de certains livres qui ont disposé au cœur même de leur construction la question de la responsabilité du sujet par rapport à la mort. Il y en a deux qui me viennent en tête, et vous voyez, c'est pas n'importe quoi, puisque c'est d'une part l'Odyssée d'Homère et presque contemporain, le livre de la piété filiale de Confucius. Voilà, deux livres qui ont placé en leur cœur la question de la pulsion de mort. Qu'est-ce qui se passe quand on place en cœur d'un livre la question de la pulsion de mort? Que ce soit évidemment avec la psychanalyse, mais peut-être déjà avec Homère, sans doute déjà avec Confucius, que j'ai pas mal travaillé, il fait un temps, on a quelque chose à dire sur le mythe et on a quelque chose à dire sur le rêve. Ça, c'est le premier point. Je pense que c'est un livre qui est très important, justement, parce qu'il ne cède pas sur le fait de nous dire qu'il y a un noyau de réel dans des objets que l'on pourrait entièrement ranger dans la rubrique de l'imaginaire. Voilà, le fantasme, le rêve, le délire, l'hallucination, les passions fondamentales auxquelles sans doute il faudrait rajouter quelque chose d'assez intraitable, qui est la honte de l'être. Et certainement beaucoup de violences dans l'histoire sont des violences qui sont dues au fait qu'on ne soigne pas cette honte de l'être et qu'on la masque sur cette espèce d'inflation imaginaire de l'amour et de la haine au service évidemment de la plus cruelle des méconnaissances. Alors, ce livre envoie aussi une angoisse qui me semble vivre au cœur déjà de la théorie psychanalytique et qui s'est, on le sait bien, produite comme une déflagration dans l'histoire. Qu'est-ce que c'est que cette angoisse? Ou plutôt, avec quel texte de Freud ai-je été sensible à certains aspects de ton écriture? Eh bien, je vais chercher un texte que notre ami Max Kohn, rangerait peut-être du côté du préanalytique et qui est la contribution à l'étude des aphasies. C'est un texte de Neuro, d'accord, c'est un texte de Neuro. Ah, c'est l'après, qu'à un certain moment, Freud travaillant sur l'aphasie, nous livre ce qui est peut-être sa première incursion dans une avancée d'auto-analyse, à savoir une illusion, pas franchement un rêve, et certainement pas une observation clinique, où il verrait devant lui un manuscrit dont les lettres s'effaceraient. Il entendrait, dans cette espèce d'effacement de la lettre, d'effacement de la trace, une voix qui lui dit son effet de moi. Une illusion, mais qui donne un premier prototype de l'angoisse humaine, c'est d'être confronté à l'évanouissement des traces de l'humain dans le monde et sans doute dans la culture. Lorsque Freud ultérieurement va travailler sur des objets qui circulent un peu ailleurs, le mythe, le rite et puis le rêve, il essaye de voir dans le rêve, au fond, quelque chose qui est, en fait, deux choses, pas une seule chose, la réalisation du désir. Entendre peut-être moins comme la satisfaction, quelqu'un, c'est à courte vue, comme la réalisation, comme on peut dire que tel film a été réalisé par. C'est-à-dire la disposition scénique des éléments signifiants du désir. Comme ça, j'entends réalisation, réalisé par. Et puis, autre chose qui s'appelle l'ombilic du rêve. Cette espèce de pliage sur les cicatrices du corps, sur les blessures du corps, de son lien au signifiant, le corps pâti du signifiant, et qui fait que le désir du rêveur est peut-être moins un désir de satisfaire un vœu immédiat que le désir de sortir de la fascination ou de l'engloutissement dans ce réel.
Voilà, c'est comme ça, un grain de réel dans le rêve, comme le grain sur lequel se développe la perle des associations à la possibilité d'en parler. Or, les objets freudiens sont des objets qui permettent, en quelque sorte, à l'analyste, à l'analysant, de travailler sur le singulier, je veux dire sur la solitude, bien sûr sur la solitude, c'est moins des choses, mais aussi sur le collectif au singulier. Voilà ce que ça travaille, les objets du rêve. Dans le même temps, un goût immodéré en Allemagne pour la psychologie des peuples, qu'on trouve déjà glorifié dans les écrits de Jung en 1918, c'est pas au dernier moment tout ça, hein. Sur le côté des textes de Jung qui distinguent l'inconscient arien de l'inconscient juif, avec Binswanger et ses disciples qui ont fait, les seuls du reste, à faire une critique au vitriol de ces textes-là. Dans le même temps, le rêve et le mythe étaient soumis au rouleau compresseur de la psychologie des peuples. On parlait du rêve de l'âme allemande. On parlait du grand mythe de la nation. Et lorsqu'il a été, sans doute grâce à Thomas Mann, question que Freud reçoive le prix Nobel, un certain nombre d'écrivains allemands se sont rebellés en disant « Freud, c'est quand même peut-être bien pour un certain nombre de pervers qu'on va lui laisser, mais attention, si ces idées se diffusent dans la culture, eh bien c'est mauvais, parce que ça va attaquer la candeur, l'innocence sacrée des peuples, notamment du peuple allemand. » Donc, dans les années nazies, des objets fondamentaux pour nous, comme le rêve et le mythe, étaient soit freudiens, soit nazis. Il se trouve que ton livre nous explique quelque chose de fondamental. Je reviendrai évidemment après sur la psychose, puisque je me suis entraîné un peu après avec la psychose en te lisant, mais enfin, j'ai des patients en cure depuis longtemps. Quelque chose de fondamental qui est que tu parles de la pulsion de mort. Je vais dire comme ça que la pulsion de mort, c'est pas la mort. La pulsion de mort, c'est pas la mort. Ce qui est la mort, c'est de ne rien vouloir savoir de la pulsion de mort. Ce qui est la mort, c'est le vitalisme. Une prise en compte de la pulsion de mort, c'est-à-dire du fait que pulsion de mort et pulsion de vie travaillent avec et contre. Opérateur freudien, travaille avec et contre. Comme il disait, du reste, que l'écriture et la tradition, ça travaille avec et contre. Dans l'homme Moïse de la religion athée, c'est la page 247. L'avant-dernière édition Gallimard. Une prise en compte de cet opérateur avec et contre nous éloigne de tout clivage vitaliste. Et ça, je crois que c'est très très important. Il ne s'agit pas dans ton livre qui fait en quelque sorte, on aurait pu dire que la planche le fait avant, quelle importance, qui fait en quelque sorte de la pulsion de mort, le biais métapsychologique par lequel la notion lacanienne de réel prend sens, il ne s'agit pas dans ton livre de faire l'apologie de l'être pour la mort. Rien là-dedans de ces ivresses pseudo-existentialistes qui finalement, sous gouverne d'emphase, vous la destinée humaine au pire. Donc, véritablement, un travail sur le rapport entre le désir, l'amour et la haine. Avec cela qui peut nous surprendre, que la haine, tu ne la travailles pas, peut nous surprendre, évidemment, comme le font les sociologues. On en parlait à midi. Voilà. Travaille pas la haine au plan des représentations ou des stéréotypes uniquement. Tu travailles la haine comme un affect fondamental qui, pour pouvoir, en quelque sorte, flatter le narcissisme, suppose une déconstruction méthodique et impatiente de la division subjective de l'autre, c'est-à-dire de sa dignité d'être de l'autre. En d'autres termes, ce contre quoi la haine se bat, c'est contre cette terreur que nous avons tous de la disparition des traces, en faisant pour de bon disparaître des corps, et à cet égard, en faisant aussi disparaître quelque chose de l'ordre de la lettre. Permettez-moi, pas une anecdote, mais quelque chose qui m'a bouleversé. Lorsque j'étais en Chine, c'était aussi avec Michel Guipas, dans les années 2004, on a présenté à nos amis chinois le film Shoah. Et les gens ont pleuré. Et une jeune chinoise qui pleurait a expliqué ses larmes en disant quelque chose que je crois n'est pas choquant. Elle dit, elle pleure parce qu'elle a le senti sentiment qu'on est en train de faire mourir une langue. Voilà. Elle avait ressenti de plein fouet, en plein cœur, cette haine du symbolique, et pas cette haine de l'imaginaire, qu'il y a dans le projet nazi, et dont nous avons à évaluer les effets sur l'actuel. Voilà. Et dont nous avons à évaluer les effets sur l'actuel. Quand je dis un mot, par exemple, de la façon dont la psychanalyse subit quelques critiques, qu'elle subisse quelques critiques, c'est très bien. Que nous ayons des ennemis, c'est salutaire, qu'ils se dévoilent, c'est formidable. Maintenant, qu'ils fassent des descentes de police, c'est regrettable, et qu'ils intitulent leur descente de police livre, c'est stupide. Après, qu'un livre s'appelle un livre noir, donc il s'agit d'une littérature toute de grisaille, et qui n'a pas la splendeur, évidemment, de l'absolu négatif, tel que Pimpin-Soulard. Ce n'est pas un livre noir, c'est une descente de police grisaillante, bavarde, en figurine grasse, insupportable. Mais, quand même, ça fait du bien, faire de la boxe, mais, quand même, qu'est-ce que c'est que pour des adversaires? C'est bien d'avoir des adversaires, mais moi, pas parce que quelqu'un me tape sur la tête que c'est mon adversaire, c'est pire. Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris? Ben, ils n'ont pas compris la théorie de la libido. Ils ne veulent rien savoir, hélas. Qui est ramenée purement et simplement à une théorie de l'énergétique. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris le lien entre le destin humain, l'érotisme et la fabrication de la trace. Rien compris. Rien. Bon. Alors, c'est peut dire qu'il nous voue un monde où effectivement il faut se tenir à carreau, et où la seule passion reconnue sera la méconnaissance, parce que le coup, elle a bonjour devant elle. Mais seulement de beaux jours. Ça ne va pas durer. Bon. Enfin, je pense. C'est très important cette histoire-là, parce que ce que nous apprend l'éthique de la psychanalyse, de ne pas céder sur son désir, c'est une phrase, et qui aurait envie de céder sur son désir, franchement, si on prend désir au sens le plus bête du terme. J'ai envie d'une tarte aux pommes, je ne vais pas céder. Il n'y en a pas, je vais faire un scandale. J'ai envie de voir tel film, mais quand notre copain veut voir un autre film, mais tant pis, je ne vais pas. Bon, c'est pas ça, céder sur son désir. C'est ne pas céder sur la confrontation avec les traces de son désir. Ne pas céder sur la possibilité de lire son désir. C'est quand même cette histoire-là de l'éthique. C'est une éthique du sujet capable non seulement d'entendre quelque chose de signifiant, mais capable de maintenir ouverte la possibilité d'écrire et de lire quelque chose du désir. Ça c'est important. Et c'est important parce que ça nous amène à comprendre une forme d'amour qui n'a rien à voir avec l'amour du courrier du cœur, qui est l'amour pour un tiers qui s'appelle chez Freud la troisième personne. Et par exemple, dans cette formation de l'inconscient dont on parle si peu, et qui s'appelle le vice, mais lui il en parle. Ça veut dire, la chose sur le vice, il écrit des tas de trucs. Bon, il a raison, mais je veux dire, c'est plutôt un oiseau rare, Max. Bon, qu'est-ce que c'est que le lien entre l'amour et le vice? C'est la possibilité pour le sujet d'être dans un amour, mais qui n'est pas une demande d'amour. Amour pour le trésor du signifiant amené par la troisième personne. Et c'est peut-être le seul tiers qui compte en psychanalyse. Je crois qu'il y a beaucoup de psychanalystes qui font l'erreur en pensant que le tiers, c'est papa. Moi, le tiers, c'est pas papa. Le tiers, c'est pas le patriarcat. C'est pas le père à la maison. C'est pas parce qu'il y a un homme à la maison qu'il est symbolique. On ne peut pas croire que symbolique, ça met qu'il mec. Bon. Non, enfin. Mais moi, on entend ça à longueur de temps avec nos étudiants. La mère, avale l'enfant, cannibale, t'as fait côté avec ça. Puis pas, ça arrive, alors là, attention, en ce moment, tu es là. Oui, j'ai pas été trop emmerdé pour venir du boulot, parce que c'est là où le symbolique fait docteur de la force. Quand j'en remets le petit, ça vaut vraiment que ça lève le bon des ânes. Bon, non, le tiers dont il est question, c'est le tiers de la troisième personne, c'est le tiers du vice. Et je pense que notre époque a horreur du vice. Dans une époque qui a horreur de ça.
Rien. Il y a horreur de l'équivoque. Et cette horreur du vide, c'est cette horreur de l'équivoque, c'est quelque chose qui participe de la volonté effrénée de réduire le langage humain à un code. Seulement, si on est pris uniquement comme des sujets capables de répéter un code, il y a quelque chose de très simple. C'est qu'on peut être peinard, mais qu'on ne peut rien transmettre. Si on n'est que des êtres de code, on ne peut rien transmettre, parce que ce qu'on transmet, c'est sur fond d'équivoque. C'est sur fond de vice. Et c'est sans doute sur ces fonds d'équivoque et de vice revenus que les langues peuvent refleurir et que les possibilités de se relire comme un porteur, parfois encombré de lettres ou de traces, mais les transmettant à son insu, à qui ne sait même pas qui les a reçus, c'est peut-être ça, justement, qui est ce refleurissement de l'avec et contre de la pulsion de vie, avec et contre la pulsion d'or. Le refleurissement de la possibilité de transmettre du symbolique, c'est une fois de plus pas la pulsion de vie contre la pulsion de mort, mais le refleurissement de l'opérateur avec et contre. À ce moment-là, des chances sont données à une nouvelle éclosion de la lettre, de la trace et de la langue qui n'est pas un code. En quoi tout cela aurait-il un rapport avec la psychose? On disait autrefois avec Lacan que les psychotiques étaient des martyrs de l'inconscient, martyrs au sens qu'ils en témoignent. On se rend compte aujourd'hui que non seulement martyrs de l'inconscient, c'est aussi des exclus du social. C'est évidemment tout autre chose. En travaillant en psychiatrie, on essaie de résister, mais quand même. Dans combien de services, dès qu'on admet un patient, et qu'il dit qu'il doit partir dans 2 semaines ou 3 semaines, avant même qu'il y ait un événement de parole. En d'autres termes, ce patient reste un patient. Il n'a même pas le temps d'être un analysant temporaire. Il reste un patient. Or, qu'est-ce que c'est, au fond, que la question que la psychose pose à la psychanalyse? C'est une question politique. La psychose pose aussi à la psychanalyse une question politique qui est de notre responsabilité de faire tenir les lois de la parole dans la cité. Et presque, dirais-je, et c'est peut-être d'écriture, dans L apostrophe à cité. Qu'est-ce que c'était que la politique de secteur? Ce n'était pas simplement mettre les patients dans la cité, mais mettre la cité dans l'hôpital. C'était les deux choses. Le droit de cité. Voilà. C'est ça qui est interdit aux psychotiques. Les lieux sont de plus en plus dissociés. La prison, l'hôpital, la rue, les foyers d'assistance, les SAMU, etc. Et pour lutter contre cette dissociation, évidemment, fleurissent des associations, 1920. Bon, c'est pas suffisant. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte, la psychose? Et qu'est-ce que ça peut construire, néanmoins? Ben, ça nous raconte un sujet qui n'est pas astructuré, mais qui est réduit au trognon de structure. Et qui pour, au trognon de structure. Et qui pour supposer l'autre encore quand il le suppose. C'est-à-dire quand il n'est pas dans le radical de la mélancolie cotardienne, qu'on ne voit plus dans nos hôpitaux, et qui vont parfois frapper aux portes des chirurgiens ou des chirurgiens esthétiques, demandant par exemple qu'on leur fasse un trou là parce qu'ils étouffent. Oui, bien. Moi, j'ai des copains médecins qui m'envoient des cas de précotard, et ça passe plus du tout par la psychiatrie, ça passe par la médecine. Tel médecin va me dire, je reçois un type qui a l'air bizarre, ça fait 1 an, alors qu'il va très bien, il demande une trachéotomie. Est-ce que tu pourrais le recevoir? Comment ça va? Ben, je suis poussé de partout. Ah ben voilà. Bon. Alors qu'est-ce que ça nous évoque, la psychose? C'est un être réduit au trognon de la structure, où, finalement, on ne connaît pas cette mélancolie délirante qui du reste se soigne, entre dans le temps, quand même, hein, eh bien, se trouve devant un autre, qui est un autre, absolument idéalisé comme la source parfaite de l'amour, ou absolument persécuteur. Parce que c'est que la psychose.
Et la psychose, c'est vraiment le sujet qui se voit imposer sa réalité psychique par l'hallucination et qui va traiter ce réel autant qu'il le peut par un délire. Alors ça, on peut les observer, patients. D'accord ? Il faut avoir le temps et la culture. Hein, quand même, un paranoïaque assez turbulent avait été soigné pour anxio-dépression. Parce que c'est plus simple avec cette espèce de poubelle publicitaire pour les compagnies d'assurance et laboratoires pharmaceutiques qui s'appelle le DSM. Voilà. Poubelle. Il faut le temps. Il faut le temps pour que le sujet prenne corps sur notre propre matériel fonctionnel. Pourquoi ? Parce que quand on parle de psychose, on oublie souvent, mais pas de toi, mais on oublie souvent de dire une chose, c'est que les psychoses qu'on rencontre, ce sont des topologies psychotiques qui se greffent sur d'autres topologies névrotiques. On ne compte pas la pureté psychotique, comme un botaniste rencontre une fougère inespérée ou un champignon rarissime. On rencontre la plupart du temps le tremblement qu'il y a entre une topologie psychotique et une topologie névrotique. Et ce tremblement passionne le psychotique. C'est-à-dire qu'à la base, il y a un transfert psychotique. Il n'y a pas évidemment un névrose de transfert. Là, on ne va pas annoncer un névrose de transfert dans la psychose. Si ça fait scoop, je ne crois pas. Il faut exagérer. Bon. Et l'effet, par exemple, que la psychotique prend appui sur notre corps, sur notre nom, mais oui, bien sûr, c'est un effet d'apaiser le paysage psychotique. Ça va l'apaiser. Alors, moi, j'ai suivi un patient qui n'a pas parlé pendant 10 ans. Qu'est-ce qu'il disait la première fois qu'il a ouvert la bouche ? Ma femme dit qu'il ne parle pas. Mais ça fait 10 ans qu'on était sans nouvelles de sa femme. Je ne l'ai jamais trouvé. Mais comment je l'ai rencontré, ce patient ? Tout simplement, on était à midi, on était à table. Enfin, ils étaient à table. Moi, je ne bouge pas. Bon, je bouffe au sel, c'est pour mon plus grand confort gastrique. Enfin, bon. Et lui, il est debout, je lui dis, mais pourquoi vous ne mangez pas avec les autres ? Vous voyez un petit peu l'intervention lacanienne. Vous ne mangez pas avec les autres. Alors, moi, est-ce que j'ai pas de bouche ? Voilà. Ben, venez me parler. Alors, évidemment, j'aurais pu faire le malin. Je dis, ah, il n'a pas de bouche, mais avec quoi vous parlez ? Mais pas avec mes oreilles. Il parle avec mes oreilles, c'est-à-dire que quand il dit j'ai pas de bouche, il regarde mes oreilles. Il regarde que ça vibre, que ça bouge, et que je le tente quand même. Ça fait des choses. Bon. Mais quand on n'a pas mordu les mots, quand on n'a pas mordu, quand on n'a pas avalé, comment voulez-vous que ça fonctionne les bords pulsionnels ? Comment voulez-vous que l'élasticité du bord des lèvres, l'élasticité du larynx, tout ça, ça fonctionne ? Comment voulez-vous que ce soit caressé par le fait que l'anatomie prête ses faveurs à la pulsion, disait Lacan, prête ses faveurs. Et le truc, c'est une femme qui prête ses faveurs, pas tous les autres. Alors, peu à peu, il a une bouche parce qu'il regarde mes oreilles, puis parce qu'il fait aveuglage, je bouche à oreille, etc. Et puis un jour, on me dit, j'ai décidé de vous supporter. Lacan, il me parle. Et on pourrait voir qu'il dit, oui, j'ai décidé de vous supporter. Alors j'avais un supporteur, alors après j'ai envoyé au club. Bon, j'ai essayé de vous supporter. C'est une bonne nouvelle, très très bonne nouvelle, j'ai essayé de me supporter. On se voyait tous les matins à 10h, au bout d'un an j'arrive à 10h, il est là. Je lui dis bonjour, on va se voir, mais non, attendez s'il vous plaît, j'ai rendez-vous avec mes oreilles. Je dis, bon, bah, alors moi je m'attendais à ce qu'il aille sur son fauteuil dans le hall, il rentre dans mon bureau, il ferme la porte du bureau. Il s'installe pour un rendez-vous avec les oreilles. Avant de fermer la porte, il me gêne pour un quart d'heure. Alors qu'est-ce que je fais ? Moi je fais les sympas, je peux désœuvrer. Donc je dis bonjour. Alors il y a mon stagiaire qui se pointe. Ah, ton bureau est libre. Je dis non, il y a quelqu'un qui est en séance. Je dis avec qui ? Je dis qu'il n'est pas ça, trop compliqué, ça se fait. Au bout d'un quart d'heure, je rentre. Elle me dit, vous aviez rendez-vous avec vos oreilles ? Je dis oui. Alors maintenant mes voix, elles étaient à la carotte. Comme ça, c'est mais du côté de mon oreille gauche. Ça. Ça dit toujours les mêmes choses. T'es qu'un con, t'es qu'une merde, t'es qu'une pourriture, etc. Mais du côté de mon oreille droite, eh ben, Deauville vous dit vos gueules. Voilà. Il entend du côté de son oreille droite, Deauville vous dit vos gueules. Ça m'arrive de le dire. Enfin, pas. Bon. Et après, il va faire des tas de dessins, il va faire des règles, utiliser des lettres, etc. Ça, c'est des fonctions de suppléance, etc. Ça prend 3 ans. Et qu'est-ce que c'est que 3 ans par rapport à 10 ans de mutisme? Et qui est-ce qui va me dire, mais vraiment, de quel droit on peut me dire, tu vas pas passer 3 ans avec un patient parce qu'il faut qu'il sorte dans 15 jours, mais où ça, pour aller où? On s'en fout. Donc je crois qu'actuellement, ce qui menace la psychose, c'est que ceux qui veulent la gérer consentent à être enfermés dehors. Et vous, à ce moment-là, les psychotiques au néant. Résister à cela, c'est bien évidemment prendre la mesure, la défense de notre dette vis-à-vis de la...